Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la chute d'une légende hollywoodienne, Phil Spector. Dans les années 60, alors que le rock est en ébullition et que les crooners prennent la poussière, un jeune homme d'à peine 19 ans, sans relation ni aucune envergure, bouleverse les codes d'une industrie musicale sclérosée. Inventeur du Wall of Sound, le mur de son ou le mur du son, comme vous voulez, ce petit génie devient aux yeux du monde le Van Gogh de la pop, le Citizen Kane de la soul, le Ben Hur de l'acoustique, l'Orson Welles du son, le Wagner du rock'n'roll. Non, je t'ai plus. C'est bien, mais Phil Spector est une comète. Il disparaît des radars de la renommée en moins de 10 ans. Et puis, une nuit de février 2003, il revient sur le devant de la scène. Lana Carlson, une actrice de série B, est retrouvée morte dans son manoir, tuée d'une balle de revolver dans la bouche. Phil Spector était seul avec elle, son compte est bon. Grandeur et décadence, un classique de la mythologie rock. Notre invité aujourd'hui, Christophe Comte, journaliste, spécialiste de l'histoire du rock. Il écrit dans Libération, il est l'auteur de plusieurs biographies d'artistes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Stéphanie Fromentin. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Le légendaire producteur de disques Phil Spector a été arrêté après que la police a trouvé le corps d'une femme chez lui. Il a été libéré avec une caution $1 million.
C'est dans un manoir de l'Alhambra, ce lundi 3 février 2003, que tout se joue. Une propriété luxueuse, blanche, au toit de tuiles rouges, dans laquelle Phil Spector s'est retiré en 1998. Une bâtisse qui détonne dans cette agglomération de Los Angeles, très peu fréquentée par les rois du showbiz. Menottes au poignet, chemise blanche débraillée, chevelure ébouriffée, Phil Spector réapparaît aux yeux du public, encadré par deux gendarmes, emmené dans une voiture de police, l'air hagard. Une arrestation qui attire les voisins, curieux de comprendre d'où proviennent les coups de feu qu'ils ont entendus 40 minutes plus tôt. Quant aux journalistes, ils se précipitent comme un seul homme, car Phil Spector est indissociable de la musique populaire américaine. Il est l'incarnation de la magie d'Hollywood. Son histoire commence dans le Bronx, où ses parents, d'origine ukrainienne, mènent une vie simple, rythmée par la radio, qui diffuse en permanence les airs à la mode. Mais en avril 49, tout s'écroule. Le père décède. Il s'est asphyxié avec un tuyau relié au pot d'échappement de sa voiture. À ce moment-là, Phil a 9 ans. 4 ans après ce suicide, sa mère décide de déménager dans un environnement plus clément, Los Angeles. Phil est un adolescent malingre, dont la peau craint le soleil, l'antithèse des surfeurs californiens. L'école l'intéresse assez peu, en revanche, la musique, elle le transporte. Alors, à 17 ans, avec 3 camarades de classe, il fonde les Teddy Bears. Au printemps 1958, porté par sa passion et la certitude de son génie, il franchit le seuil d'un petit studio situé au coin de Santa Monica Boulevard et de Vine Street, le Gold Star. L'endroit est minuscule, mais il est doté de la meilleure chambre d'écho de Los Angeles. Phil est certain d'y faire du bon son. Alors, il y enregistre un 45 tours et les distribue à toutes les radios du coin. À Fargo, dans le Dakota, intéressé par ce jeune groupe, le DJ d'une station retourne la galette. Il est fasciné par la voix de la chanteuse. D'autres DJ l'imitent, tous sont subjugués par cette phase B, « To know him is to love him ». Un titre qui reprend l'épitaphe inscrite sur la tombe du père de Phil Spector.
Vous avez dû entendre des jeunes d'aujourd'hui parler des Trois Ours, ce nouveau groupe de musique qu'on entend dans tous les jukebox qui s'appelle les Teddy Bears. Ils vont nous interpréter leurs morceaux. To know him is to love him.
Just to
passage, le 28 novembre 1958, dans le plus prestigieux show de Revolver TV, il n'en faut pas plus pour que cette chanson à l'eau de rose grimpe au sommet des 8 parades pendant 40 semaines. Plus longtemps qu'Elvis Presley. Le 45 tours est gravé à 500 exemplaires, il s'en vend 1,5 million. L'étrange gringalet, méprisé par ses copains de classe, se retrouve donc à 18 ans l'égal des poids lourds du showbiz. Le petit crapaud du Sud Bronx se change en prince du son. Harvey Phillips Spector devient Phil Spector, le premier producteur indépendant à se mesurer aux puissantes compagnies discographiques. Obsédé du contrôle, il écrit les chansons, compose les arrangements, choisit les artistes, commercialise les disques. Il va jusqu'à fonder sa propre société, Phil's Record. Un jour, il entend la radio et la chevauchée des Walkyries de Wagner et s'interroge. Pourquoi ne pas faire la même chose avec du rock ? Mais la stéréo n'existe pas encore, alors il va l'inventer. Oui, il double, voire triple les musiciens, les superpose sur une même piste, passe le tout à la chambre d'écho, puis les démultiplie une nouvelle fois. Un son réverbéré, caverneux, sort alors de cette tambouille sonore qui donne l'impression d'un morceau enregistré dans une sorte de cathédrale pop. The Wall of Sound, le mur de son, est né. Phil Spector est un pionnier. En 1963, fort de ses succès, il tombe amoureux d'une jeune chanteuse cubaine, Ronnie Bennett. Pour elle, il écrit une chanson d'amour qui la propulse au sommet de The Wall of Sound.
Phil Spector, il était tout. Il n'y a rien de comparable. Il était la plus grande inspiration de mon cœur.
Pour Brian Wilson, leader des Beach Boys, Spector est un génie. Dire que ça fait 40 ans que j'essaie d'écrire une chanson comme ça, dit-il, c'est au-delà de la perfection. Cela dit, Brian Wilson avait déjà dit la même chose quand il a écouté Revolver des Beatles. Si vous voulez sortir Pet Sounds, il a écouté les Beatles. Il s'est dit, c'est pas possible, j'arriverai jamais. Alors je vis. Bref, avec Be My Baby, les Ronettes triomphent et Phil Spector deviennent référence. Les hits se succèdent. Spector rime avec disque d'or. À 25 ans, il est un milliardaire à l'apogée de sa renommée. Les stars se bousculent et le prix de les produire. Tous veulent la touche spectorienne, celle qui déborde le raisonnable, qui l'engloutit même. Parce que Phil peut tout se permettre, même envoyer bouler Bruce Springsteen. Mais le comédien Nilo Tempo, son meilleur ami, sent que l'animal commence à lâcher la rampe. Un soir, on était en voiture et tout à coup, il a pris sa tête dans les mains et il m'a dit « J'en peux plus. Tout ce que je fais devient un hit. Ça va durer combien de temps, Nino ?» Bref, son succès le dépasse. Nous aussi un peu quand même, hein, le succès et la notoriété qui rendent malheureux. Difficile à croire. Bien, ce qui est clair en revanche, c'est que rongé par une paranoïa aiguë, il commence à déraper, devient violent avec ses musiciens, n'honore plus ses engagements. Chaque fois qu'il pétait les plombs, raconte Nino, il foutait son arme dans la gueule des gens. Alors il a menacé comme ça ses violonistes, des petits vieux qui se sont enfuis en hurlant. En novembre 1974, après une séance particulièrement arrosée, il sort son flingue et le pointe sur John Lennon. « Si tu veux me tuer, ok », lui dit-il d'une main de chaque côté de la tête. « Mais épargne au moins mes oreilles, j'en ai encore besoin. » Très fort, le Beatle. Phil Spector décharge alors le contenu du revolver dans le plafond du studio Gold Star. Instant karma. Lorsqu'un journaliste lui demande si toutes ces histoires sont vraies, Spector répond « Tu sais, aucun de ces gens n'a le même sens de l'humour que moi. » Bref, jamais en position de douter de son immense génie, Spector inspire au tout Los Angeles un respect mêlé de terreur. Oui, personne ne se suicide de calmer, de peur de prendre une balle perdue.
On en était arrivé à un point où on ne pouvait plus lui dire « Mais Phil, pose ce foutu revolver, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Parce que vous ne vouliez pas froisser l'icône. Il était tellement célèbre que les gens le laissaient faire des choses bizarres.
Carole Connors, la chanteuse de son premier succès, confirme cet état schizophrénique permanent entre Dr. Phil et Mr. Spector. Une bipolarité diagnostiquée s'installe jusque dans son quotidien. Spector trimballe en permanence de l'artillerie, non pour se protéger, mais bien pour intimider son entourage. Il déteste qu'on le prenne pour un petit bonhomme inoffensif. Il veut être craint, comme Marlon Brando dans Le Parrain. Il visionne sans fin Citizen Kane, s'identifie au héros muré dans sa solitude et sa richesse. À 39 ans, il se prend pour le King. Il pense pouvoir apporter quelque chose à des gens comme Mick Jagger, Janis Joplin, Bob Dylan, mais aucun d'entre eux ne l'appelle. Le vent tourne, la pop anglaise déferle sur l'Amérique. Au fond de son jardin, transformé en stand de tir, Phil dégomme les 45 tours qui ne lui plaisent pas. Dans l'immense maison qu'il partage avec Ronnie Bennett, devenue Madame Spector en 68, l'atmosphère est tout aussi oppressante. Bien que leur union ait commencé comme un conte de fées, elle s'achève sur les mêmes notes qu'un thriller. Phil est d'une jalousie morbide. Il menace de la tuer si elle le trompe. Pour lui prouver qu'il ne plaisante pas, il fait installer un cercueil en verre au sous-sol de leur maison. Sans argent, sans compte en banque, Madame est enfermée à double tour, séquestrée dans une propriété entourée de barrières électrifiées où des Doberman veillent. Spector va jusqu'à cacher ses chaussures pour l'empêcher de sortir. En décembre 73, pour tenter de sauver son mariage, il lui offre un cadeau très spécial. Des jumeaux. Oui, des vrais, des gosses, des vrais, quoi. Qu'il a adopté, sans lui en parler, pour lui faire une surprise. 6 mois plus tard, Ronnie réussit à s'enfuir.
C'est ma mère qui m'a sorti du manoir. Elle a demandé à Phil si je pouvais prendre l'air et elle m'a dit « Ne mets pas de chaussures, il ne se doutera pas que tu pars si tu sors sans chaussures. » Donc, je suis sortie pieds nus et quand on a passé le portail, on s'est mis à courir. Mes pieds étaient en sang, mais je m'en fichais parce que je savais que je mourrais si je restais là-bas.
Au début des années 80, Spector, à la façon d'un Stanley Kubrick, s'isole un peu plus du monde. Il quitte Beverly Hills, s'achète un pseudo-château à l'Alhambra, une banlieue sans charme au nord-est de Los Angeles, très loin du fast hollywoodien. Dans cette citadelle, la légende Spector devient alors l'étrange Monsieur Spector. D'ailleurs, beaucoup ne savent plus s'il est mort ou vivant. Et plus personne n'entend parler de lui jusqu'en 2003.
Run, run.
France Inter. Affaires sensibles.
911, qu'avez-vous à nous dire ?
Je suis le chauffeur de Phil Spector. Je pense que mon patron a tué quelqu'un. S'il vous plaît, pouvez-vous envoyer une voiture ?
Vous pensez que votre patron a tué quelqu'un ?
Oui, monsieur, oui.
Et pourquoi pensez-vous qu'il a tué quelqu'un ?
Parce qu'il y a une femme sur le sol et il a un pistolet dans la main.
Ok, restez en ligne, ne raccrochez pas.
Il est 5h du matin, en ce 3 février 2003, quand la police de Los Angeles reçoit cet appel. Sur place, les agents déploient les grands moyens. Ils encerclent le manoir en formation tactique d'assaut à la manière du GIGN, avancent en longeant les murs de la propriété. Sur le perron, ils découvrent un homme qu'ils accueillent en maître de maison. Phil Spector est là, devant eux, les mains dans les poches. « Vous devriez venir voir ça », leur dit-il en les invitant à entrer. Dans le vestibule, les policiers distinguent le corps inanimé d'une femme en tenue de soirée, la quarantaine, blonde, gisant dans un fauteuil. Du sang dégouline entre ses doigts, sa tête est légèrement penchée. Elle a une blessure à la bouche qui semble être l'orifice d'entrée d'une balle de revolver, certainement du Colt Cobra 9 mm qui traîne sur le sol sous sa jambe. Je vous passe les détails, les blessures provoquées par ce crime sont indicibles d'horreur. Alors, les policiers s'approchent de Phil Spector. Que s'est-il passé ? Il ne répond pas, mais commence à vociférer et à s'agiter comme un démon qu'il est, à tel point qu'il est neutralisé d'un coup de taser. Mais notez, Spector ne desserre toujours pas les dents. En sortant du manoir pour rejoindre son véhicule, le détective Richard Tomlin, en charge de l'enquête, comprend que cette affaire ne sera pas un simple divers, non. Des dizaines de voitures de journalistes sont déjà venues s'ajouter aux curieux, c'est un signe, et des hélicoptères tournent au-dessus de la propriété. En garde à vue, Spector dit farouchement avoir tiré sur Lana Clarkson. Il parle d'erreur, de suicide accidentel, un nouveau concept probablement. Pour s'en sortir, il appelle un ténor du barreau, son ami Robert Shapiro. Et bien une heure plus tard, il ressort libre, quoique délesté d'une caution $1 million. Le lendemain matin, la photo du producteur en sueur à l'arrière d'un véhicule de police fait la une de tous les journaux. « Du mur de son au mur de soupçon », titrent les tabloïdes. Dans une interview au magazine Esquire, Spector donne sa version du drame. Elle a embrassé le revolver, je ne sais pas pourquoi, je ne la connaissais pas, et elle s'est tuée. Voilà, il va s'en sortir, dénonce la presse. Après O.J. Simpson, après Michael Jackson, la police de Los Angeles est soupçonnée d'être vendue aux puissants. Pourtant, le 28 septembre 2004, le procureur Alan Jackson inculpe Spector pour meurtre sans préméditation. Le jour même, Spector s'adresse à la presse.
Les actions du procureur hitlérien et de ses hommes de main brutaux en vue d'obtenir mon inculpation et de m'empêcher de faire éclater la vérité sont répréhensibles, sans scrupules et méprisables. Ils ont décidé de me déchoir de mes droits de citoyen californien pour cause de crime. Mes empreintes de doigts n'étaient pas sur l'arme. Et le pistolet a été utilisé pour un suicide et pas par moi et je ne suis pas concerné.
À 67 ans, Phil Spector comparaît pour le meurtre de Lana Carlson, une actrice de série B inconnue du grand public. C'est un gros événement, parti pour durer 2 ou 3 mois, explique Jim Moret, le chroniqueur judiciaire d'Inside Edition. C'est surtout la première fois qu'une célébrité se retrouve au cœur d'un procès pour meurtre, en direct, à la télé américaine. Oui, parce que le juge californien Larry Fidler a brisé un tabou. Les caméras sont autorisées à entrer dans les salles d'audience afin que le public voie que les célébrités sont jugées comme n'importe qui. Court TV, la chaîne câblée des férus de feuilletons judiciaires, a obtenu effectivement le droit de filmer le procès dans son intégralité, tous les jours. L'équipe campe littéralement sur le parking, avec une tente blanche et un camion studio. Hors de question d'en rater une miette. Cette histoire est évidemment pas bénie par la presse. Tous les ingrédients du scénario noir comme Hollywood en raffole sont réunis. Un ponte du showbiz accusé, une ex-starlette blonde et un meurtre petit matin dans un château de Los Angeles. Le 24 avril 2007, 4 ans après le meurtre de Lana Clarkson, le procès de Phil Spector s'ouvre à grand renfort et sous les soleils de la presse. Le producteur comparaît libre. Il arrive, hagard, coupe au bol, blonde, à la François Sagan, costume blanc cassé, chemise violette et talonnette, grotesque jusque dans l'allure. Il s'avance, catatonique, au bras de Rachel, sa nouvelle épouse, de 40 ans sa cadette. Ses 3 gardes du corps lui feraient un chemin dans la ruche des caméramans et des photographes. Contrairement au procès de Michael Jackson, où des fans étaient venus de Lyon ou de Turin soutenir leur idole, pas un seul admirateur ici, pas même un collègue de l'industrie musicale basé à Los Angeles ne s'est déplacé. Dans la salle d'audience, le juge sait que tous les projecteurs sont braqués sur lui. Il faut en finir avec la mauvaise réputation de Hollywood, terre promise pour criminels fortunés. Chacune des parties avance alors ses pions dans une déclaration liminaire de haute volée, jugée plus tôt. Pour le procureur, Alan Jackson, les faits sont clairs, il s'agit d'un meurtre. Pour le nouvel avocat du producteur, Bruce Cutler, défense de la mafia, il s'agit d'un accident. Eh bien.
Avec toutes les preuves qui sont exposées, nous sommes persuadés que vous serez convaincus au-delà de tout doute raisonnable que Phil Spector est coupable du meurtre de Lana Clarkson.
Les preuves vous montreront surtout que c'était un tragique accident. Les preuves montreront que nous n'avons pas de mobile pour blesser cette femme. Donc, quand vous connaîtrez toutes ces preuves, je suis confiant dans le fait que vous saurez que Philippe n'est pas coupable.
Au récit de la soirée fatale, devant le tribunal, Phil Spector, les mains tremblantes, semble se décomposer. Il reste muet, mais la position de son corps, recroquevillé dans son fauteuil, tentant péniblement de se cacher derrière sa horde d'avocats, parle pour lui. Il faut dire que les faits sont éloquents. Ce soir-là, Spector écume les bars et les restos. Vers minuit, il pénètre dans la section VIP de House of Blues, sur Sunset Boulevard, un club fréquenté par le gratin californien. L'hôtesse d'accueil est une blonde sculpturale d'1m82 au sourire éclatant, Lana Clarkson. Peu après 2h du matin, Spector l'invite à prendre un verre chez lui. Son chauffeur les conduit au manoir et attend. Un coup de feu le réveille à 5h du matin. Il voit alors son patron arriver, arme à la main, criant « Je crois que je viens de tuer quelqu'un. » Lucide. Le chauffeur appelle la police. On connaît la suite. À la barre, les experts scientifiques se succèdent et analysent les preuves. Résidus de poudre, gouttelettes de sang, tout est passé au peigne fin. Sans succès, forcément. Aux experts de l'accusation viennent s'ajouter des experts de la défense embauchés par l'accusé, grassement payés. Une bataille d'experts. Nul. La partie va donc se jouer sur un autre terrain, la personnalité des deux protagonistes. Pour étayer la thèse du suicide accidentel, les avocats de Spector misent sur la fragilité de Lana Clarkson. Une starlette de série B, blonde, élancée, poitrine provocante, fréquentant régulièrement les pages centrales de Playboy. Ce qui n'en fait nullement une déséquilibrée, mais bon. On ajoute, pour enfoncer le clou, qu'à 40 ans, sans enfants, sans famille proche, sa carrière est au point mort. Lana broie du noir, accepte à contre-cœur ce poste d'hôtesse dans un bar, mais songe sérieusement à changer de vie, pour ne pas dire en finir avec cette vie. Voilà, c'est clair, donc, suicide. Le parquet de Los Angeles voit les choses tout autrement. Phil Spector a mis un pistolet dans la bouche de Lana Clarkson et a tiré, affirme le jeune procureur, Alan Jackson, mèche noire et mâchoire carrée de héros de comic book. Il avait des bougies, de la musique douce. Phil Spector avait des intentions romantiques cette nuit-là. Lana Clarkson a été retrouvée morte, son sac à l'épaule, comme si elle s'apprêtait à partir. Se suicide-t-on chez un inconnu, qui plus est une célébrité, avec un réflexe aussi basique que celui de récupérer son sac à main avant de partir? Non, crie l'avocat. Quelle vista! Spector est par ailleurs un habitué des menaces par arme à feu. Et nous allons le prouver. Le proc appelle à la barre une petite ex-amie du producteur, oui, qui témoigne sans phare. En 92, alors qu'elle décide d'abréger une soirée trop arrosée, Spector, jusque-là parfait gentleman, va chercher un revolver et lui pointe entre les yeux. Alors là, j'ai vraiment cru qu'il allait me tuer si je passais la porte, dit-elle. Une simple théorie, selon Bruce Cutler, l'avocat de Spector. Pourtant, toutes celles qui ont connu Spector évoquent la violence et la dualité de son comportement. Toutes ont pensé un instant qu'il arriverait un jour un accident fatal. Mais parmi tous les témoignages qui se succèdent durant l'audience, le plus attendu est celui du seul témoin de la scène, le chauffeur Adriano de Souza.
Avez-vous entendu M. Spector avoir une conversation avec Mlle Lana Clarkson?
Oui.
Qu'a-t-il dit?
Il l'a invité à venir au château.
Qu'a-t-elle répondu?
D'abord non.
Que s'est-il passé après?
Il a insisté, il a dit deux, trois fois de plus, allons au château, allons au château.
A-t-il finalement réussi à la convaincre de le suivre dans la voiture?
Oui.
Avez-vous ramené M. Spector au château avec Mlle Clarkson?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez entendu ensuite ou vu quand vous étiez dehors?
J'ai entendu un pot, un bruit.
Ok.
Il s'est passé une minute, probablement, et M. Spector a ouvert la porte.
La porte arrière?
Oui.
Que s'est-il passé quand vous avez vu M. Spector sortir par cette porte?
À ce moment-là, il avait une arme à la main.
Est-ce que M. Spector vous a dit quelque chose?
Il a dit, je crois que j'ai tué quelqu'un.
Sur ce témoignage, la défense va attaquer sans relâche et sans scrupule. Cet homme ne parle pas correctement l'anglais. Il a mal compris ce que l'accusé a dit ce soir-là. Ça n'était pas « je crois que j'ai tué quelqu'un », mais « je crois que quelqu'un s'est tué ». Or, Adriano de Souza est un témoin tout ce qu'il y a de plus crédible. Ancien militaire de l'armée américaine à la conduite irréprochable, il a de surcroît tout à perdre en envoyant son employeur principal au cachot. Alors, à l'issue de 5 mois de procès qui tiennent l'Amérique en haleine, le verdict tombe.
Je note qu'à ce jour, le jury n'a pas été en mesure de déterminer un verdict, ce qui implique une annulation du procès.
Je sais que cette décision, ou plutôt cette non-décision, suscite la controverse. Et même au sein du jury, il y a de profonds regrets de n'avoir pas trouvé de consensus sur ce verdict.
Oui, c'est la douche froide. Ce mercredi 26 septembre 2007, le juge Paul Fiedler ajourne le procès. Après 12 jours de délibération en effet, plus de 100 témoignages à la barre, le jury populaire se déclare incapable de parvenir à un verdict unanime. Un procès qui a déjà coûté plus de 400 millions de dollars au gouvernement, la pilule a du mal à passer. Faute d'unanimité au sein du jury, Phil Spector sort libre. Libre, oui, mais pas innocent. Oh, qu'il est déçu. Lui qui, de son côté, a déjà dépensé près de 5 millions de dollars, s'attendait à être acquitté. Confronté à une pression politique énorme d'un État de Californie qui se juge ridiculisé par ce verdict, le proc n'a pas le choix. Il fait appel. Spector commet alors une grosse erreur. Pour ce procès, en appel donc, qui doit être une simple formalité, il engage l'avocat Doron Weinberg, célèbre pour avoir été accusé d'escroquerie par ses clients. Et surtout, le procureur Jackson orchestre discrètement le choix des 12 nouveaux jurés.
Superior Court in for the County of Los Angeles. Hear ye, Gable versus Philip Spector. Be seated.
Un second procès s'ouvre 13 mois plus tard, le 29 octobre 2008. À l'issue de débats qui dureront 5 mois, Phil Spector est déclaré le 13 avril 2009 coupable de meurtre au second degré, une condamnation passible de la prison à vie. À 69 ans, la légende du rock qui arbore sur sa veste un badge Barack Obama Rocks et un pins aux couleurs du drapeau des États-Unis prend le verdict de plein fouet. Il est immédiatement placé en détention et il ne bronche pas. Le 29 mai 2009, il est condamné à 15 ans de prison, auxquels s'en ajoutent 4 pour possession d'armes sans aucune possibilité de libération anticipée. Le procureur Alan Jackson se réjouit.
Avec ce verdict et cette sentence, un message a été envoyé. Je crois qu'un message très clair a été envoyé. Si vous commettez un meurtre dans notre communauté, si vous commettez des violences envers nos concitoyens, nous, avec les moyens du bureau du shérif, nous vous retrouverons, nous vous poursuivrons. Et peu importe que vous soyez célèbre ou fortuné ou une quelconque personnalité, vous serez jugé et puni pour vos actes.
La Californie n'est plus une zone de non-droit pour milliardaires criminels. À la prison d'État de Corcoran, pas question de rencontrer la légende vivante du rock. On refuse de médiatiser ce prisonnier encombrant tant il est la caricature de l'ambiance délétère de la Cité des Anges. Phil Spector, lui, reste égal à ce qu'il est, peu causant, l'œil allumé, mais sans perruque. Avec ses avocats, il passe ses journées à préparer son nouvel appel, car il y croit dur comme fer, il sortira bientôt. Mais sa condamnation à 19 ans de prison est confirmée le 2 mai 2011 par la Cour d'appel californienne. Les avocats du procureur contestent la décision. Le 17 août 2011, la plus haute autorité judiciaire de Californie rejette cette ultime demande. Phil Spector est donc incarcéré à la fameuse prison des Twin Towers, repère des gangs de la ville. Dans le même pénitencier sont détenus Charles Manson, l'assassinat de Sharon Tate, et Sharon Sharon, celui de Robert Kennedy. Joli voisinage. L'ancien nabab ne se sent pas en sécurité, on comprend. Il se plaint d'avoir reçu des menaces, demande à changer de prison, mais son sort est scellé. Au lendemain du meurtre, l'une de ses connaissances avait confié « On n'aurait jamais dû le laisser seul ».
C'est une page de l'histoire de la musique qui se tourne avec la mort de Phil Spector. Le fantasque producteur américain avait à son crédit quelques-uns des plus grands succès des années 60. Et l'album des Beatles, Let It Be, génial arrangeur de son, Phil Spector est mort en prison où il purgeait une peine pour meurtre.
Lorsque ce samedi 16 janvier 2021, la télévision annonce le décès de Phil Spector, c'est encore la légende qui est mise en avant. Il était celui qui a laissé une empreinte sonore indélébile sur un demi-siècle de musique. Le meurtrier de Lana Clarkson, lui, est évoqué du bout des lèvres, parce qu'il ne faut pas entacher le mythe. Phil Spector est mort à l'hôpital pénitentiaire à l'âge de 81 ans. Pour les médias, l'évocation de sa mort relève du dilemme le plus cornélien. Comment parler d'un génie qui est devenu un assassin ordinaire ? La réponse se niche peut-être dans l'hommage que Ronnie Spector lui rend le jour même de son décès, publiant sur son compte Instagram ces quelques mots. C'est un jour triste pour la musique et un jour triste pour moi. Et même si l'obscurité s'est installée chez Spector, je souris encore lorsque j'entends la musique composée à ses côtés. La musique restera toujours.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Phil Spector, dont nous allons parler avec notre invité Christophe Comte. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de l'histoire du rock, vous écrivez dans Libé, vous êtes l'auteur de plusieurs biographies d'artistes et aussi, alors je le signale, de l'excellent documentaire sur le glam rock, Grandeur et décadence, dispo sur le replay de la chaîne Arte, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Pour dire à nos auditeurs, le glam rock, c'est quoi, c'est qui déjà?
Le glam rock, c'est une période très courte de l'histoire de la musique qui se situe au début des années 70, dont les deux, vraiment les deux grandes figures sont David Bowie ouais. et Mark Bolan de T-Rex. Mais Phil Spector, dans l'esprit, n'est pas si loin, finalement. C'est pour ça que ça s'appelle aussi un peu Splendeur et décadence, parce qu'il y a ce côté assez décadent, finalement, dans le glam rock. Et puis, au niveau sonore, lorsqu'on écoute certaines productions de cette époque-là, alors ça contient des gens comme Elton John. Et
est-ce qu'il y a Alice Cooper, par exemple?
Ouais,
c'est complètement déjanté.
Il y a beaucoup de... Évidemment, tous les musiciens de cette période-là ouais. se réclamaient de Spector, qui était un peu has-been, mais dont l'empreinte musicale était énorme à l'époque.
Alors, le côté décadence, vous avez raison de le mettre en avant, et on l'a mis en avant au début du récit. On a l'impression que la culture rock ne peut pas exister s'il n'y a pas ce volet de décadence. Est-ce que c'est consubstantiel au rock, ça, cette forme de décadence?
Oui, mais c'est souvent du théâtre. Oui. Comme vous l'avez dit, Alice Cooper, c'est un joueur de golf. Il rentre chez lui, il joue au golf et sur scène, il décapite des chauves-souris. Mais,
et des poussins aussi.
Et des poussins.
Des poussins.
Mais Phil Spector, là, le problème, c'est que lui, il passait vraiment c'était pas du tout un fantasme. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé au moment du meurtre, les gens à l'époque disaient, mais comment ça s'est pas passé plus tôt, surtout? Parce qu'en fait, toute sa vie, il a manié des armes à feu. Il y a des images où on le voit avec des gardes du corps, où il a un flingue dans la main. Et en fait, on comprend que les gardes du corps sont pas là pour le protéger lui, mais pour protéger les gens, en fait. Parce que ce type était quand même un danger public tout le temps. Quasiment depuis le début. Donc finalement, ce qui s'est produit, malheureusement, ça a été quasiment inéluctable.
Ouais. En plus, il était à Los Angeles, plutôt l'écrin des surfeurs et des grands blonds, lui, tout rachitique, ses cheveux sales.
Oui, il y a probablement chez lui, à la base, même si c'est toujours un peu cliché de dire ça, une part de complexe. Ouais, d'une certaine manière, si sa musique est aussi grandiose, si elle cherche ce côté wagnérien, justement, c'est probablement à la base un complexe. Mais après, on peut pas expliquer tout par ce biais-là. Mais c'est vrai qu'il a été, il a porté des perruques complètement extravagantes pendant toute sa vie. Et puis il était effectivement, il y a un personnage dont il est vraiment inspiré, c'est dans Phantom of the Paradise, c'est Swan, c'est vraiment ça, c'est Phil Spector, c'est-à-dire c'est un type qui est diabolique, qui est maléfique. Mais qui dirige quand même autour de lui toute une industrie qui pèse très très lourd à Los Angeles. Et donc, d'une certaine manière, dont on accepte toutes les phrases, qui est même en studio, la manière dont il s'est comporté avec les musiciens, quels qu'ils soient.
Tyrannique ou pas?
Tyrannique, non seulement tyrannique, mais aussi menaçant. Même avec quelqu'un comme Leonard Cohen, dont il a produit un album dans les années 70, et qu'il a menacé avec une arbalète, ou des
et
gens...
Avec, et avec John.
Et avec John Lennon.
Et John Lennon. Faut oser quand même menacer John Lennon.
Il a menacé à peu près tout le monde. Il a le dernier album un peu important qu'il a fait, c'est en 1980 avec le groupe new-yorkais Les Ramones. Pareil, il les a menacés avec une arme à feu. Il pouvait pas s'en empêcher. C'était vraiment... voilà, donc, vous savez ce qu'il avait dit une fois, il avait dit... je n'irai pas au paradis, je pense, parce que Saint-Pierre ne va pas me laisser entrer parce que je suis trop diabolique, mais je peux pas aller en enfer non plus parce que Lucifer aura peur que je lui pique sa place. Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment un type diabolique.
Alors d'un point de vue artistique, Phil Spector, on va dire pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, je pense que vous allez partager cette opinion, c'est Rock'n'Roll de John Lennon par exemple en 75, c'est absolument formidable quand même, les reprises de Lennon, elles sont formidables.
Oui, même s'il a piqué les bandes et ouais, bon, Lennon d'accord. est obligé de réenregistrer. Mais bon.
Et puis le côté sombre, c'est par exemple The Long and Winding Road qu'on vient de passer, sur laquelle alors, Phil Spector met des sucreries incroyables.
Au grand dam de McCartney.
Mais bien sûr, parce que McCartney déjà souffrait d'une réputation, on disait oui, c'est celui qui fait des choses un peu sucrées, ce qui est faux, oui, parce que Helter Skelter, c'est McCartney, c'est le rocker des Beatles en plus. Une injustice totale, donc il est fou de rage, McCartney, à tel point qu'il va ressortir les Let It Be dans sa version Naked, hein, plus tard. Ouais. Donc avec les sucreries de Spector enlevées. Alors là, je comprends pas. Ça ressemble pas à Spector, ces sucreries un peu variétoches autour de Long and Winding Road. C'est pour emmerder McCartney?
Non, c'était une sorte de complot avec Alan Klein à l'époque, qui était le manager des Beatles, après Brian Epstein, et qui avait dans le dos des Beatles, après ces longues sessions au studio Toucanam où voilà qui vont aboutir à Get Back, qui était la première version de Let It Be. Voilà, ils vont mandater Spector derrière le dos du groupe parce que même Lennon était contre. Spector va faire ses arrangements assez sirupeux qui ne ressemblent même pas à ce que lui faisait.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est...
à cette époque-là, il était complètement en dehors du circuit. Voilà. Le dernier disque important qu'il a produit à cette période-là, c'était pour Ike and Tina Turner, River Deep Mountain High en 66 et donc en 69-70, il est plus grand chose, mais en revanche, il a ce nom. Et puis, bon, voilà, pour des raisons comme Alan Klein était aussi son manager, il se retrouve. Et après, bon, ça a plutôt bien fonctionné avec Lennon et avec Harrison, puisqu'il a produit aussi le premier album.
All Thing Must Pass d'Harrison,
c'est lui. C'est aussi Spector. Donc, il revient un peu grâce aux Beatles, ce qui est forcément pour lui, arriver à produire les Beatles, c'était quand même un Graal. Même pour lui, qui était quand même très orgueilleux et très mégalomane, quand même, ça lui permettait. Mais ça n'a rien donné après, puisque finalement, à part deux, trois disques qu'il a produits dans les années 70, disons, de toute manière, le son de Phil Spector, c'est vraiment lié à la première moitié des années 60. C'est le son mono, déjà. Mmh. C'est le son qu'il avait conçu pour les jukebox et les radios et les transistors, qui n'avaient qu'un seul haut-parleur. Donc lui, il s'en foutait de la stéréo, ouais. de tout ça, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Pour lui, ce qui était important, c'était de pouvoir percuter, que le son soit frontal. C'est pour ça que tout est mis au centre, ce qui rend le mur du son particulièrement difficile aujourd'hui même à écouter, parce qu'il y a quelque chose de très puissant. Et en même temps, il n'y a pas d'espace, on souffle pas. C'est vraiment un mur qu'on se prend dans la figure. Quoi. Et donc, du coup, lui avait raisonné comme ça et il a inventé ce son qui était, c'est le Tycoon of Teens, comme l'appelait Tom Wolfe. Il l'appelait comme ça. C'est le Tycoon des adolescents. Mm-hmm. Il a créé ce nom-là, ce son-là, parce que il savait qu'il y avait un marché, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très intelligent dans son approche. C'est pas un créateur isolé dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui veut vendre des disques. Ouais. Et ça, en soi, il a réussi. Il a vendu des millions de singles en faisant une musique qui, évidemment, aujourd'hui, paraît à la fois très désuète quand on l'écoute avec ses petites clochettes, etc. Il a fait un album de Noël aussi qui vaut le détour, mais qui a été une influence énorme, mais vraiment sur le son, sur la production.
Donc le Wall of Sound, c'est vraiment le son des Ronettes, pour le coup. C'est vraiment le son des Ronettes, plus que celui de John, par exemple, plus tard.
Oui, c'est le son des Ronettes, des Crystals, tous les groupes qu'il a produits avant 63-64, où là, l'arrivée finalement de cette pop moderne qu'incarnent les Beach Boys, les Beatles, les Stones, tout ça, finalement va le rendre un peu ringard. Et du coup, c'est vraiment la première moitié des années 60, son jardin. À Los Angeles.
D'accord. On va aller dans un autre univers pendant 3 minutes. Gaëtan Roussel, c'est autre chose que les Beatles, mais bon, ça fait ce qu'on appelle les playlists. Vous savez, France Inter, Radio de Service Public, doit soutenir la création.
Mais c'est normal. Bah oui.
Bah voilà. Gaëtan Roussel. Et ça s'appelle la colère.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour elle osait fleur. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour sur un bout de terre. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour sur un bras de mer. Elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle prend de la hauteur. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. À croire qu'elles sont plusieurs. À nous grignoter le cœur.
Christophe Comte, dans ce studio, fait preuve et part d'une certaine gourmandise dans l'attente de la vidéo qui va sortir, enfin de la série documentaire qui va sortir sur Disney+, le 25 novembre, et qui s'appelle Get Back. Christophe Comte, où on va, je fais une parenthèse, on va entrer vraiment dans l'intimité des Beatles surtout, mais dans l'intimité de leur travail, de leur génie, de leur création. On attend ça avec gourmandise, hein.
Ah bah oui, forcément, parce que c'est quelque chose dont on sait qu'il existe depuis des décennies, mais on l'a jamais vu, quoi. Donc ouais. C'est assez prodigieux. Le travail de Peter Jackson, normalement, devrait être à la hauteur.
Ouais. Parlons, revenons à Phil Spector, notre sujet, mais qui est dans le sujet. Hein. En 59, il sort cette chanson, To Know Him is to Love Him, que les Beatles ont reprise d'ailleurs après. C'est une bluette dont le titre est inspiré de l'épitaphe gravée sur la tombe de son père. Ça, c'est le point de départ de sa carrière, ça.
C'est le premier morceau.
Ça, dans le genre sirupeux, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, mais c'est le premier morceau qui est repéré déjà, parce que Phil Spector avait quand même un petit peu fait ses classes au Brill Building. Vous savez, ce building de la chanson qui se situe près de Broadway, près de Times Square à New York, où a été faite toute la musique de l'époque avec Carole King, Paul Simon, enfin tous ces gens-là qui ont écrit des standards comme ça. Et donc il était à cette école-là et il a réussi à écrire cette chanson assez bon, on peut la juger si on peut aujourd'hui, mais à l'époque elle était un peu miraculeuse d'une certaine manière.
Une belle mélodie, ça.
Voilà. Et en plus avec une résonance particulière pour lui, parce qu'effectivement c'était l'épitaphe. Alors quand on l'aime, quand on le connaît, on l'aime. Et toute sa vie, ce sera tout l'inverse pour Spector. C'est quand on le connaît, on l'aime pas du tout en fait. Mais il a marqué grâce à ça, qui est une phase B au départ. une sorte de style, mais qui est encore assez embryonnaire, mais qui va développer très très vite grâce à ce studio Gold Star dans lequel il met le pied, qui ressemble à pas grand chose, hein. C'est un petit studio, mais qui a la grande particularité de posséder une chambre d'écho. En fait, c'est des anciens réfrigérateurs, hein, qui ont été transformés en chambre d'écho. Et lui, quand il arrive là-dedans, il trouve ça fantastique parce que tout son style va être dans la réverbération. Et tout finalement, le son spectorien, c'est une réverbération. Et parfois, bah, quand il va trop loin dans le spectorien, on n'entend plus rien, en fait, la réverbération prend tout le reste. Et les instruments, du coup, ne sont plus audibles. Et donc, lui, il a trouvé ce studio dans lequel il va empiler les musiciens, mais carrément. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre 3 bassistes, 4 guitaristes, des cordes, des chœurs. Et c'est une sorte de pièce montée assez écœurante comme ça sur le papier. Alors il y a un truc qui faisait Phil Spector que les musiciens arrivent à détecter, c'est qu'il enlevait après des pistes. Mais comme tout le monde enregistrait en même temps, il restait l'écho des pistes. Et en fait, c'est ce côté, chez lui, finalement, assez fantomatique. C'est-à-dire, il y a un guitariste qui s'appelle Billy Strange, qui joue une partie sur un morceau, j'ai plus le nom. Mais la partie lui plaît pas, il enlève la partie, mais on l'entend à travers le micro des autres instruments. Et c'est ce côté spectral, finalement.
Oui, spectral, pas mal.
Voilà, et c'est ce côté-là qui le fascine, c'est-à-dire arriver à provoquer. Et c'est ce qui fait aussi que le son de Spector est aussi particulier. Et parfois assez ingrat, encore une fois, c'est pas non plus Brian Wilson, qui est son plus grand élève, finalement, celui qu'il a le plus admiré, a fait des choses bien plus merveilleuses
avec les
Beach Boys, avec Pet Sounds, ouais. Et même les productions des Beach Boys, les premiers albums, ouais. Surf, sont finalement très inspirés par Spector, mais le son est quand même un peu meilleur. Et bon, après, effectivement, c'est pour tous les musiciens une référence. Dans le côté, vous parliez tout à l'heure de Bruce Springsteen, effectivement, qu'il a envoyé sur les roses, mais c'est bien après, dans les années 70. Mais Springsteen, le premier album de Springsteen, Born to Run, c'est vraiment
c'est spectoral.
Complètement. C'est un hommage à Phil Spector, ouais. Avec notamment l'utilisation des saxophones, parce que ça, c'est un instrument qu'on n'entendait plus finalement. Mmh. Et Phil Spector dans les enregistrements de Phil Spector, on l'entend sur les Ronettes, etc. Il y a toujours un saxophone qui fait la mélodie, qui est une sorte de truc un peu comme ça, un peu strident, qui tourne autour de la chanson. Et Springsteen va reprendre ça à une époque où ça se faisait plus du tout. Et puis dans le rythme, dans la dynamique que ça apporte.
Est-ce qu'il a travaillé avec les Stones?
Il n'a pas travaillé
avec les Stones. Parce que comme vous parlez des saxophones, et que j'ai un souvenir ému des saxophones des Stones au début des années 80, dans leur disque des années 80, je me dis, peut-être qu'il a... Non, il n'a pas bossé avec
eux. Non, il n'a pas travaillé avec eux. En revanche, ce qui est certain, c'est que les Stones étaient très, très fans de Phil Spector. Comme à peu près tous les musiciens, d'une certaine manière.
Bien. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci pour vos connaissances et votre passion. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Phil Spector, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Évidemment, la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.